Chapitre 3. La confession des enfants. Aucune parole ne saurait faire comprendre à ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience l'inquiétude, le trouble et la consternation qui s'emparent du cœur d'un pauvre enfant catholique lorsqu'il entend annoncer du haut de la chaire, par son prêtre, d'un ton grave et solennel, « Cette semaine, vous enverrez vos enfants à confesse. Faites-leur bien comprendre que cette action est une des plus importantes de leur vie, qu'elle va décider, pour plusieurs d'entre eux, de leur bonheur ou de leur malheur éternel. Si par sa faute ou la vôtre, père et mère, votre enfant fait une mauvaise confession, s'il cache ses péchés, s'il commence à mentir au prêtre, qui tient la place de Dieu, sa faute sera irréparable. Le démon s'emparera de son cœur, il s'accoutumera à mentir à son confesseur, ou plutôt à Jésus-Christ dont il est le représentant. Sa vie sera une suite de sacrilèges, sa mort et son éternité seront celles des réprouvés. Apprenez-lui donc à bien s'examiner sur ses pensées, ses désirs, ses paroles et ses actions, afin qu'il se confesse sans déguisement. J'étais là, dans l'église de Saint Thomas, lorsque ces paroles tombèrent sur moi comme un coup de foudre. J'avais souvent entendu dire à ma mère, lorsque j'étais auprès d'elle, et à ma tante, depuis mon arrivée à Saint Thomas, qu'une mauvaise confession, surtout la première, pouvait causer la perte éternelle de celui qui la faisait. Cette terrible semaine allait donc décider de mon éternité. Je sortis de l'église pâle et consterné. De retour chez mes parents, je me mis à table, mais je ne pus prendre aucune nourriture tant j'étais troublé. Je montai à ma chambre afin de commencer mon examen de conscience et tâcher de me rappeler toutes mes pensées, toutes mes paroles et toutes mes actions coupables. Quoique je n'avais guère plus de 10 ans, c'était vraiment pour moi une tâche herculéenne. Je me mis à genoux pour prier la Sainte Vierge de venir à mon secours. Mais j'étais tellement obsédé par la crainte d'oublier quelque chose et de faire une mauvaise confession que je balbutiais mes prières sans la moindre attention à ce que je disais. Ce fut bien pis encore lorsque j'entrepris de faire l'énumération exacte de mes péchés. Ma mémoire se troublait, ma tête tournait, mon cœur battait avec une vitesse qui m'épuisait, les sueurs coulaient de mon front. Ainsi se passèrent dans un trouble inconcevable les 3 jours qui précédèrent ma première confession. J'avais constamment devant moi ce prêtre au visage sévère qui ne m'avait jamais souri. Il m'apparaissait dans mes pensées du jour et mes songes de la nuit comme le ministre d'un Dieu inexorable, trop justement irrité contre moi à cause de mes péchés. Enfin, le jour de la confession, ou plutôt du jugement et peut-être de la condamnation, arriva. Je me rendis auprès du prêtre. Ce n'était plus le révérend Loranger, il avait été remplacé par M. Beaubien, qui n'aimait pas plus notre école que son prédécesseur. Il s'était même permis de faire contre l'école hérétique un sermon qui nous avait excessivement blessés. Mais, s'il ne nous aimait pas, je dois avouer que nous le lui rendions bien. Il avait un léger défaut de prononciation. Il parlait du bout de la langue et bégayait un peu, en sorte que nous le tournions souvent en ridicule. Un de nos amusements favoris était de le contrefaire en riant aux éclats. J'avais dû examiner sur le nombre de fois que je m'étais moqué de ce prêtre, et cette circonstance n'était pas de nature à rendre ma confession plus aisée ni plus agréable. Enfin, le moment si redouté arriva. J'allais me jeter à genoux aux pieds de mon confesseur. Je tremblais de tous mes membres. Je répétais la prière préliminaire à la confession sans trop savoir ce que je disais, tant j'étais troublé par la crainte. Dans l'instruction qui nous avait été donnée avant la confession, on avait réussi à nous faire accroître que le prêtre est le représentant, presque la personnification de Jésus-Christ. La conséquence de cette doctrine, dans mon esprit, fut de me porter à penser que mon plus grand péché était de m'être moqué du prêtre. Et, comme on nous avait dit qu'il valait toujours mieux commencer sa confession par les plus gros péchés, mon premier aveu fut « Mon père, je m'accuse de m'être moqué d'un prêtre. » Autant il m'en avait coûté de faire cet aveu, autant je me sentis soulagé lorsqu'il fut fait. Mais je ne devais pas en être quitte à si bon marché. À peine avais-je prononcé ces derniers mots « moqué d'un prêtre » que ce prétendu représentant de l'humble sauveur me répliqua brusquement en se tournant de mon côté pour me regarder en face et mieux me connaître. « De quel prêtre vous êtes-vous donc moqué, mon petit garçon ?» Me couper la langue m'aurait assurément moins coûté que de lui dire « C'est de vous !» Je restais donc quelque temps silencieux. Mais mon confesseur, devenant excessivement nerveux et comme irrité de mon silence, repartit d'un ton impérieux. « De quel prêtre vous permettez-vous ainsi de vous moquer ?» Je vis qu'il fallait répondre. Heureusement que son ton d'aigreur m'avait donné du nerf et de la hardiesse. « C'est de vous, monsieur, que je me suis moqué. »« Mais combien de fois cela vous est-il arrivé, mon petit garçon, de vous moquer de moi ?» J'ai cherché à me rappeler le nombre de fois, mais je n'en ai jamais été capable. Il faut pourtant en dire le nombre, car c'est un grand péché que de se moquer de son curé. Je ne suis pas capable de vous donner ce nombre. Eh bien, je vais aider à votre mémoire en vous interrogeant. Dites-moi bien la vérité. Pouvez-vous vous être moqué de moi 10 fois ? Bien plus que cela, monsieur. 50 fois ? Bien plus que cela encore. 100 fois ? Mettez 500 fois, et peut-être davantage. Mais mon petit garçon, vous passez donc tout votre temps à vous moquer de moi. Je ne passe pas tout mon temps à cela, mais ça nous arrive bien souvent par malheur. Oui, vous pouvez dire par malheur, car c'est un grand malheur et un grand péché pour vous que de vous moquer ainsi d'un prêtre qui tient la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dites-moi donc, pour quelle raison vous moquez-vous ainsi de moi ? Dans mon examen de conscience, je n'avais pas prévu qu'il faudrait dire pourquoi je m'étais moqué du prêtre, et je fus comme foudroyé par sa question. Je n'osais répondre, et je restais longtemps muet par la honte qu'il m'accablait. Mais mon interrogateur, avec une persévérance qui me désolait, insistait pour savoir en quoi je l'avais tourné en ridicule. Il m'assura que je serais damné si je ne lui disais toute la vérité. Je me décidai donc à parler, et lui dis : « Je me suis moqué de vous pour plusieurs choses. » « Quelle est la première chose pour laquelle vous êtes moqué de moi ?»« J'ai ri de vous, parce que vous parlez du bout de la langue. Il nous arrive souvent, parmi les enfants de l'école, de prêcher comme vous, afin de rire à vos dépens. »« Avez-vous fait cela souvent ?»« Presque tous les jours, principalement dans nos jours de congé, et surtout depuis que vous avez prêché contre notre école. »« Quelle autre raison avez-vous eue pour rire de moi, mon petit garçon ?» J'hésitais longtemps à répondre. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, le cœur me manquait. Mais, à force d'être pressé par le prêtre, je lui dis : Le bruit court dans le village que vous aimez les filles, que vous allez voir les demoiselles Richard presque tous les soirs. Et cela nous amuse joliment. Le pauvre prêtre fut atterré par ma réponse. Il cessa de me questionner sur ce chapitre. Puis, changeant de propos, il me dit : Quels sont vos autres péchés ? Je me mis à les lui confesser à mesure qu'il se présentait à ma mémoire. Mais, le sentiment de la honte qui m'accablait, en disant à cet homme tous mes péchés, était 1000 fois plus grand que celui d'avoir offensé Dieu. En effet, ce sentiment de respect humain absorbait tellement ma pensée qu'il ne laissait pas la moindre place au sentiment religieux. Mais lorsque j'eus confessé tous les péchés dont je me souvenais, le prêtre commença à me faire les questions les plus étranges sur des matières que ma plume se refuse à décrire. Je lui répondis : « Mon père, je ne comprends pas ce que vous me demandez. » C'est sur le 6e commandement, le 7e dans la Bible, que je vous interroge. Confessez bien tout, car vous irez en enfer si vous me cachez quelque chose. Et là-dessus, le voilà entraînant ma pensée et mon imagination dans un cloaque d'idées impures où, Dieu merci, je n'avais pas pénétré jusqu'alors. Je lui répondis : Je ne vous comprends pas, ou je n'ai jamais fait ces choses. À la fin, il me fit une question si dégoûtante, l'expression dont il se servit était tellement sale que ce fut pour moi comme un choc électrique. Je frémis d'horreur. Je me trouvais si plein d'indignation que je lui dis d'une voix forte pour être entendu de plusieurs : « Monsieur, je suis bien méchant, j'ai vu, entendu et fait bien des choses que je regrette, mais je ne suis pas coupable de ce dont vous me parlez. Mes oreilles n'ont jamais rien entendu de si sale que ce qu'elles viennent d'entendre de votre bouche. Veuillez cesser de me faire ces questions. Pour l'amour de Dieu, ne m'instruisez pas plus que je ne le suis dans le mal. » Le reste de ma confession fut court. Mon ton décidé avait porté coup et fait rougir le prêtre. Il s'arrêta soudain. Il me donna ensuite quelques bons conseils qui auraient pu m'être utiles si les profondes blessures qu'avait reçues mon âme n'avaient tellement absorbé ma pensée que je ne faisais presque aucune attention à ce qu'il me disait. Il m'imposa une légère pénitence et me congédia. Je sortis du confessionnal irrité et confus. J'avais tellement honte de ce que je venais d'entendre que je n'osais lever les yeux. Je m'en allais dans un coin, retiré de l'église, pour faire ma pénitence, c'est-à-dire pour réciter les prières qu'il m'avait ordonnées. Je restais longtemps dans l'église. J'avais besoin de calme et de silence après la rude épreuve que je venais pour la première fois de traverser. Cependant, je l'avoue, à ma juste confusion, ce n'était pas mes péchés qui me désolaient, mais je pensais à ma mère qui avait pris tant de soin de son pauvre enfant et qui avait si bien réussi à éloigner de lui les images impures dont on venait de souiller sa pensée et son cœur. Je me disais, « Ah, si ma mère avait entendu cet interrogatoire, si elle voyait les sales pensées qui m'accablent en ce moment, si elle savait à quelle école elle m'avait envoyé quand elle m'a conseillé dans sa dernière lettre d'aller à confesse, comme elle pleurerait avec moi. Il me semblait qu'elle ne pouvait plus m'aimer, qu'elle allait avoir écrites sur mon front les souillures dont ce prêtre venait de profaner mon âme. Je n'ai quitté l'église que lorsque les ténèbres de la nuit m'y forcèrent. J'arrivais chez mon oncle tout honteux, comme un enfant qui vient de commettre une mauvaise action et qui craint d'être découvert. Cet oncle, quoique catholique romain de nom, ainsi que la plupart des principaux du village de Saint-Thomas, ne croyait aucunement à l'église de Rome. Il se moquait des prêtres, de leurs messes, de leur purgatoire et surtout de leur confession. Il ne cachait pas que, dans sa jeunesse, il avait été scandalisé par les paroles et les actions d'un prêtre au confessionnal. Me voyant revenir de confesse tout triste et confus, il me lança quelques plaisanteries qui ne firent qu'augmenter mon trouble et ma peine. « Si tu n'es pas meilleur à l'avenir, me dit-il, tu seras toujours plus savant si ton confesseur t'a fait les belles questions que le mien me fit la première fois que j'allais à confesse. » Mais ma tante, qui était très dévote aux romaines, me dit « Tu dois te sentir le cœur plus léger depuis que tu as dit tous tes péchés. » Je lui fis une réponse évasive, mais je ne pus lui cacher la confusion et la tristesse dont j'étais accablé. Je croyais être le seul à qui le prêtre avait fait ces dégoûtantes questions. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque le lendemain, j'appris par les discours de mes compagnons d'école qu'ils n'avaient pas été plus édifiés que moi au Saint Tribunal de la pénitence. Seulement, au lieu de s'en affliger, la plupart en riaient entre eux. « Le prêtre t'a-t-il fait de telle et telle question ?» me demandait-il en riant aux éclats. Je refusais de leur répondre et je leur disais « N'avez-vous pas honte de parler de ces choses ?»« Ah ah, te voilà bien scrupuleux !» me répondait-il. « Si ce n'est pas péché pour monsieur le curé de nous parler sur ces matières, comment serait donc ce péché pour nous ?» Je restais confondu et ne savais que répondre. Je m'aperçus bientôt que les jeunes filles de l'école n'avaient pas été moins souillées et moins scandalisées que les jeunes garçons par les questions du prêtre. Quoiqu'elles s'éloignassent assez de nous pour nous empêcher d'entendre tout ce qu'elles disaient à ce sujet, j'en compris suffisamment pour me convaincre qu'elles avaient entendu à peu près les mêmes questions. Les unes en paraissaient indignées, les autres en riaient à cœur joie. Je serais bien coupable si j'induisais à penser que ce prêtre de Rome était plus pervers que les autres ou qu'il ne remplissait pas les devoirs de son ministère en faisant ces questions. C'était bien alors mon idée et je détestais cet homme de tout mon cœur jusqu'à ce que je fusse mieux instruit. J'avais été injuste à son sujet, car ce prêtre ne faisait que remplir son devoir, il ne faisait qu'obéir au pape et à ses théologiens.